Radio Kapi. Oh, Kapi.
Je suis Blaise Chindani à la présentation de ce journal, mais d'abord les titres de ce journal. Plus de 60 nouveaux cas de rougeole ont été notifiés au Kasaï oriental à la dernière semaine du mois de décembre, soit un cumul de 456 cas déclarés depuis le 15 décembre. En 4 semaines, la province a enregistré 259 cas. La maladie touche toutes les 19 zones de santé de cette province. Province du Tanganyika, les déplacés de guerre en provenance du nord et du sud Kivu, qui sont sur les sites Katanika, dans la ville de Kalemi, vivent dans des conditions précaires. Plus de 2000 ménages y vivent, mais n'ont pas accès aux soins médicaux et à d'autres besoins de première nécessité. La ville de Kananga est confrontée à un accroissement du nombre des têtes d'érosion. Elles se sont multipliées par deux, d'après des données récemment publiées par le ministère provincial des infrastructures, travaux publics et réhabilitation. Pour en parler, nous recevons David Mwanda, expert en environnement, qui revient sur les causes de ce phénomène. Mesdames et messieurs, d'abord, cette information qui vient de nous parvenir. Les forces armées de la RDC, FARDC, regrettent le maintien des militaires rwandais sur le sol congolais en violation de l'accord de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. Leur commandant adjoint du service de commandement et d'information en charge des opérations, lieutenant-colonel Mac Azukai, a déploré cette situation ce samedi à Kinshasa lors de la présentation devant la presse de 8 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région. Cet officier militaire explique que ces suspects ont été appréhendés loin des frontières lors des opérations militaires menées au nord et au sud Kivu. Suivez un extrait des propos de Mac Azukai au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Depuis le début de cette guerre, la RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud Kivu. L'occupation jusqu'aujourd'hui d'Uvira se trouvant très loin de ses frontières prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. Il est aussi observé qu'en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et des groupes armés comme les RED Tabara, Kigali cherche à régionaliser le conflit. En dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la signature de l'accord de Washington 4 décembre 2025, le Rwanda maintient jusqu'aujourd'hui son armée sur le territoire congolais.
Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour à tous. Ouvrons ce journal dans le chapitre sanitaire. Au Kasaï oriental, 61 nouveaux cas de rougeole ont été notifiés à la dernière semaine du mois de décembre, soit un cumul de 456 cas déclarés depuis le 15 décembre. En 4 semaines, la province a enregistré 259 cas. La maladie touche toutes les 19 zones de santé de la province. Sa cible, ce sont les enfants de 0 à 59 mois. La bonne nouvelle est qu'aucun décès n'est signalé jusqu'à ce jour. D'après le médecin chargé de la maladie à la division provinciale de la santé, les malades sont pris en charge en attendant la déclaration de cette épidémie. Docteur Jean-Pierre Soumba demande aux parents d'amener les enfants qui manifestent la fièvre au centre de santé le plus proche. Docteur Jean-Pierre Soumba a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Il y a des cas de rougeole au niveau de la province. On dirait même que nous sommes déjà en épidémie, mais nous attendons que l'épidémie soit déclarée par l'autorité compétente, qui est le gouverneur de la province. Il y en a qui ont été déjà confirmés au laboratoire au niveau national. Nous sommes déjà avec un grand nombre de cas au-delà des limites qu'il faut. Donc pour la dernière semaine de l'année 2025, c'est la 52e semaine, nous sommes allés jusqu'à 61 cas de rougeole. C'est énorme. Et nous sommes en train de nous préparer pour que d'autres populations riposter à cette épidémie. La rougeole apparaît presque de manière cyclique au niveau de la province. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Il faut noter que lorsque nous faisons la couverture vaccinale au niveau de la province, tous les enfants ne se font pas vacciner. Il y a toujours des enfants qui restent par-ci, par-là, et ces enfants-là peuvent présenter la maladie. Mais il y a les enfants pour lesquels les propres parents refusent qu'on puisse les vacciner. Les cachent, ils veulent pas. Disons qu'actuellement, la maladie est prise en charge au niveau des différentes structures où apparaissent ces enfants. Notre plan de riposte est déjà prêt, mais dans l'entretemps, au niveau des différentes zones de santé, il y a de petites campagnes parcellaires à des endroits pour éviter que la propagation ne soit fulgurante au niveau de la province.
Santé toujours. Le choléra est rapporté dans la zone de santé de la Rouzizi, en territoire d'Ouvira. Le bilan actuel fait état de 182 cas avec 4 décès dans 3 aires de santé, dont Ndunda, Kirumbe et Roussabagui. Et c'est l'aire de santé de Ndunda qui notifie de nombreux cas. Jean Kassami nous en fait le point.
L'autorité sanitaire de la plaine de Rouzizi fait mention de 144 cas signalés à Ndunda, 28 cas à Kigurwe et 10 cas à Roussabagui. L'aire de santé de Roussabagui enregistre jusqu'à ce jour 3 cas de décès. D'autres zones telles que Nazareno, Sangueta et Sangue-Sepak sont aussi affectées. L'infirmier titulaire de la zone de santé de Rouzizi reconnaît qu'ils sont limités en termes d'intrants pour combattre cette maladie qui sévit dans leur secteur. Ainsi, il redoute qu'elle ne se répande sur l'ensemble de la zone de santé de Rouzizi ainsi que dans d'autres zones sœurs de la périphérie. La division provinciale de la santé au Sud Kivu ne s'est pas encore prononcée au sujet de cette maladie. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Province du Tanganyika, les déplacés de guerre en provenance du nord et du sud Kivu, qui sont sur les sites Katanika dans la ville de Kalemie, vivent dans des conditions précaires. Pas d'accès aux soins médicaux et à d'autres besoins de première nécessité. Plus de 2000 ménages vivent sur les sites de Katanika. Dans une déclaration ce vendredi, la présidente de ces sites lance un appel à l'aide. Le point avec Paulin Monanga.
D'après la présidente du site de Katanika, il n'y a aucune structure médicale ni de pharmacie sur le site. Ces déplacés estimés à plus de 11 000 personnes sont confrontés aux mauvaises conditions de vie et de logement, surtout pendant cette période pluvieuse, ainsi qu'aux problèmes d'eau et de nourriture. Elle revient sur les conditions de vie difficiles sur le site. Actuellement, si une personne tombe malade, elle doit se débrouiller. Si elle se rend à l'hôpital Kifungo, par exemple, pour des soins, elle va obtenir une fin de non-recevoir. Il faut sortir son argent pour se faire soigner. J'ai cet enfant. Sur le site, il n'y a ni pharmacie ni hôpital. Nous n'avons pas d'aide émanant d'un service quelconque. La malaria est très répandue parmi les déplacés. Nous n'avons pas où dormir. Nous manquons de moustiquaires. S'il y a quelqu'un de bonne volonté qui peut nous venir en aide. Les déplacés fuyant la guerre dans les Kivu ont commencé à s'installer sur les sites depuis février dernier. La présidente indique qu'une organisation humanitaire leur est venue en aide avec des bâches et du petit cash. Mais cela est insuffisant. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, l'instabilité sécuritaire a fragmenté le premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026 dans le territoire de Masisi. Si certaines écoles ont pu être délocalisées, d'autres ont vu leurs activités totalement paralysées. Tout en saluant le courage des élèves et des enseignants, le responsable de la sous-division EPST Masisi 1 s'inquiète toutefois du non-achèvement du calendrier scolaire et du déplacement de nombreux écoliers et élèves à la suite des combats. Des mesures d'urgence ont néanmoins été prises pour sauver la suite de l'année scolaire. Le point avec Jean Ganduka Bongo.
Arrêter le cours au moindre coup de feu ou carrément déménager toute l'école pour espérer fonctionner ailleurs, voilà le calvaire vécu par les élèves de Masisi lors de ce premier trimestre. Un bilan que détaille Luc Nyamulinduka, responsable de la sous-division de l'EPST Masisi 1.
Il y a certaines écoles qui se sont déplacées vers le lieu sécurisé, telles que les écoles de Lac-Sebouabo, qui se sont déplacées à Masisi Centre. D'autres, de fuite, c'était lié à la sécurité, comme à Nyabiondo, là où il y avait un crépitement des balles, et on arrêtait momentanément les cours, et on surprenait après quelques temps. Dans l'axe Bourora, c'est là où il y a eu une perturbation majeure, parce que ils avaient débuté, mais ils n'avaient pas terminé le trimestre comme c'était prévu.
Luc Nambulinduka précise que dans les localités où le calme se réinstalle, comme à Boabo, les établissements regagneront leur site d'origine. Il annonce également l'envoi des inspecteurs sur le terrain pour aider les enseignants à rattraper le retard accumulé. Du côté des familles, les parents sur place espèrent un rétablissement durable de la paix, seule condition pour garantir une scolarité normale à leurs enfants.
Dans la province du Maniema, pendant ces temps, les enseignants du territoire de Kasongo réclament pour les uns les salaires des trois derniers mois et pour les autres la prime de gratuité de deux mois. C'est confiant, c'est jeudi à Radio Capi. Ils en appellent à l'implication urgente des autorités à tous les niveaux pour qu'ils soient remis dans leurs droits. On écoute à ce sujet Lawamo Kabala Gilbert, permanent Sieko Kasongo, chargé des contentieux, au micro de Florence Kizalunga.
Nous, enseignants de Kasongo, exigeons au gouvernement congolais et ses partenaires, IFOD, Caritas, Kasongo, ce qui suit. 1. Le paiement de nos salaires des mois d'octobre pour certains, novembre et décembre 2025 pour nous tous. 2. Que la Caritas Kasongo cesse de ponctionner les salaires des enseignants. 3. La délocalisation de notre paie IFOD Caritas vers une autre agence payeuse sérieuse à partir du mois de janvier 2026, car nous ne voulons plus les jeux qui se passent entre le gouvernement, l'IFOD et la Caritas. 4. Les paiements sans délai des frais de fonctionnement et de la prime de gratuité des enseignants du primaire pour les mois de mai et d'octobre 2025. La non-satisfaction de nos revendications jusqu'au 5 janvier, les enseignants de Kasongo déclencheront un mouvement de grève sèche à partir de mardi 6 janvier 2026.
À Matadi, dans le Congo central, les différents trottoirs sont envahis par les marchés pirates. C'est notamment à Kinkanda, dans la commune de Matadi. D'après plusieurs personnes, ce phénomène est la conséquence du manque d'un marché capable de contenir tous ces vendeurs qui étalent leurs marchandises le long des artères. Une situation qui expose les vendeurs ainsi que les acheteurs à des cas d'accidents de la route. Nana Plurichmambo.
Ces étalages sont visibles à de nombreux endroits, partant du rond-point RTNC, en passant sur le rond-point Kinkanda jusqu'au 24 novembre. Toute la chaussée ainsi que les trottoirs sont envahis par divers produits de première nécessité, des vêtements ainsi que des biens de seconde main en provenance de l'Europe, communément appelés bilocost. Mais derrière cette activité de survie se cache une réalité alarmante, entre autres, risque d'accident, insalubrité et tracasserie répétée. Plusieurs cas ont été signalés. Jusqu'à ce jour, aucune solution n'a été trouvée. Pourtant, les habitants de cette ville ont toujours demandé que l'État leur trouve un espace où ces personnes peuvent exercer leurs activités en toute sécurité. Pour leur part, les vendeurs indiquent que la pauvreté le pousse à s'adonner à cette activité pour leur survie. Ils n'ont pas de choix. Plusieurs croient que ce que nous vendons n'a pas de valeur. Nous vendons dans les rues parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où nous pouvons les faire. Nous courons plusieurs dangers avec les motos et les véhicules. Mais pour subvenir aux besoins de nos familles, on n'a pas d'autre choix. Rappelons qu'il y a quelques mois, l'autorité urbaine a procédé à la démolition de ces étalages, mais sans parvenir à convaincre ses marchands à quitter ces trottoirs. Matadi, Nana Plurichmambu, Radio Okapi.
Les combats ont repris ce samedi matin à Boulé, une localité située à environ 95 km de Bounia en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. Selon des sources locales, les forces armées de la RDC affrontent les combattants de la rébellion CRP dans une entité qui accueille des milliers de personnes déplacées. Il est encore difficile d'établir un bilan précis. Toutefois, un responsable religieux de la place confirme la mort d'une fillette de 11 ans atteinte par balle. Sur le plan sanitaire, la situation de demeure préoccupante, alerte les médecins responsables de la zone de santé. Jean-Claude Clokidile.
D'après un habitant, les premiers coups de feu ont été entendus aux alentours de 3h15 local, près du camp des FARDC. Un violent échange de tirs s'en est suivi. Des bombes larguées par les belligérants s'est retombé non loin du site où sont concentrées les personnes déplacées, suscitant une vive inquiétude au sein de la population. Sur le plan médical, le médecin chef de la zone de santé de Fataki dresse un tableau sombre. Deux femmes enceintes ont perdu la vie, des suites d'hémorragie dans les deux jours ayant suivi les affrontements. Les cas graves sont sont transférés à l'hôpital général des références de Fataki grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Par ailleurs, la zone enregistre une augmentation inquiétante des cas de malnutrition. 16 cas ont été recensés en une semaine, indique le docteur Dragiro Diza. En cause, des populations cloîtrées depuis plusieurs semaines, sans accès à leurs champs pour se procurer de la nourriture. Le responsable sanitaire prévient que la situation humanitaire pourrait devenir catastrophique dans les prochains jours si les acteurs humanitaires n'obtiennent pas rapidement un accès à ces populations vulnérables. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Okapi.
Revenons au Kivu, le bilan de l'attaque attribuée aux rebelles des ADF dans le secteur de Bapéré, territoire de Lubero, survenu la nuit de la célébration du nouvel an, continue de s'alourdir. Selon l'administrateur du territoire de Lubero, 9 nouveaux corps ont été découverts hier au cours d'une patrouille conjointe des FARDC et des UPDF. La découverte a été faite à Kalongé, un village situé à une dizaine de kilomètres de Mangourujipa, chef-lieu du secteur de Bapéré, et à une centaine de kilomètres de la ville de Butembo. Le colonel Alain Kiwewa parle d'un bilan encore provisoire. Il s'exprime au téléphone de Martial Papimukeba.
Lors d'une patrouille de combat, l'armée ougandaise, donc le UPDF, et nos forces de défense et de sécurité au niveau de d'un village qu'on appelle Kalongé, à 10 kilomètres vers l'agglomération de Mangourujipa, qui est le chef-lieu du secteur de Bapéré. Dans ce village, il y a une découverte de 9 corps qui ont été tués par les terroristes ADF. Sur place, on a trouvé pratiquement 5 blessés, et ce qui rend un peu lourd notre bilan, qui était de 7, donc 6 personnes qui ont été tués, plus la femme qui est décédée suite à ces blessures. Au total, on comptabilise 16 personnes qui ont été tuées, plus 5 blessés. La fouille continue et donc ce bilan n'est que provisoire.
Actualité internationale.
En Centrafrique, près d'une semaine après les élections générales du 28 décembre 2025, l'opposant à Nice, Georges Dologele, dénonce des fraudes qu'il qualifie de massives, préparées par le pouvoir et exécutées par l'autorité nationale des élections.
L'invité.
La ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, est confrontée à un accroissement du nombre de têtes d'érosion. Elles sont passées de 400 à plus de 800 d'après des données récemment publiées par le ministère provincial des infrastructures, travaux publics et réhabilitation. David Mwanda, expert en environnement, revient sur les causes de ce phénomène. Il est l'invité du journal et s'entretient avec André Katende Ngalamoulomé.
Monsieur David Mwanda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dites-nous quel est l'état des lieux des têtes d'érosion ici sur la ville de Kananga.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le problème phénomène érosif, c'est un facteur qui est en train de tuer presque tous les espaces habitables. C'est un vrai problème. Si on n'est pas plus pressé, on risque de connaître l'effacement de la ville de Kananga.
Quelles sont, selon vous, les causes des têtes d'érosion à Kananga?
Le ravin provient du phénomène érosion. Il y a plusieurs causes. Il y a des causes qui proviennent du fait de la volonté de l'homme. Mais il y a les phénomènes qui se font de façon naturelle. Quand nous voyons l'érosion, c'est déjà l'expression de la pollution du sol. Le sol est totalement pollué. Maintenant, il intervient le phénomène de construction anarchique. Lorsqu'on a créé de nouveaux quartiers, on n'a pas très bien érigé, on n'a pas respecté le plan urbanistique. Lorsqu'on coupe les arbres, la terre est complètement polluée. Ces toitures libèrent des litres d'eau sur la terre. Maintenant, ces eaux-là ne sont pas canalisées. Et ces eaux-là se rebellent, ça devient maintenant les eaux sauvages. Avec le sol qui est déjà pollué, alors il y a la déchirure qui s'est faite, que nous appelons le ravin.
Vous venez de dire que le sol est pollué. Qu'est-ce qui est à la base de cette pollution?
Le sol est soutenu par la végétation. C'est pourquoi on appelle ça la couverture végétale. Lorsque le sol est couvert, l'eau va ruisseler. Mais quand on a dénudé le sol, l'eau maintenant commence à faire des impacts sur le sol. Une goutte d'eau qui tombe crée ce que nous avons appelé l'effet splash. Ça détache sans se rendre compte. Quand nous marchons, lorsqu'on balaye, vous allez trouver dans d'autres quartiers des maisons qui sont maintenant suspendues. C'est l'érosion. lorsqu'on a déboisé, on a jeté les déchets, il y a des déchets toxiques. Lorsqu'on les jette sur la terre est complètement polluée, c'est fini. La terre n'attend qu'une occasion et là, quand il y a le ruissellement, c'est fini.
Monsieur David Mwanda, qu'est-ce qui peut être fait pour mettre fin à ces problèmes ou diminuer les risques des têtes d'érosion à Kananga?
Ce n'est pas facile d'arrêter, mais néanmoins, on peut faire la lutte en diminuant les impacts sur le sol. Comment diminuer les impacts? Tous ceux qui s'amusent à pouvoir dénuder le sol doivent cesser. Et toutes les constructions, on doit mettre les gouttières. Et normalement, dans toutes nos parcelles, on doit mettre des gazons. Les gazons, c'est un tampon qui absorbe des eaux. Et essayer de gérer correctement les déchets. Vous voyez, par exemple, dans nos maisons, on jette des piles. On casse des batteries, on les jette. Il y a des produits chimiques là-dedans. Lorsqu'il y a des compositions de ces produits-là, ça va poser des problèmes. Ça tue le sol. Nous avons des entreprises telles que Puric qui s'occupent de la lutte. Mais cette entreprise doit être rapide. Depuis que l'entreprise existe, on entend seulement, on a ouvert tel chantier, mais on ne voit pas l'impact. Entre-temps, le phénomène est en train de se faire sur la ville de Kananga. Ils sont sur le vieil ravin, mais entre-temps, 2, 5, 6 sont en train d'être créés quelque part. Alors, ils ne font pratiquement rien, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils doivent juguler. On doit planter les gazons, on doit planter les arbres. Là, on peut lutter quelquefois à diminuer les impacts sur la terre. Ce que nous voulons, il faut couvrir le sol.
Par rapport au problème de l'urbanisme, vous voyez qu'à Kananga, la plupart des gens veulent construire au centre-ville. Plus les gens sont sur la ville, plus ils vont chercher à se trouver de terrain et construire. Ça va toujours créer des problèmes. Quelle solution vous proposez?
Personnellement, je suis contre le morcellement des parcelles. Il faut étendre la ville. On peut aller vers Mwambambouyi, on peut aller vers Matamba, on peut aller vers Ntambwe-Saint-Bernard, étendre la ville. À ce moment-là, ça pourrait très bien marcher. Mais lorsqu'on autorise tout celui qui vient, bon, je coupe, on coupe, on autorise, il se met là-bas. Les eaux ne sont pas canalisées, la construction qu'il va mener là-bas. On n'a pas tenu compte des normes urbanistiques, ça va créer toujours des problèmes.
Monsieur David Mwanda, nous rappelons que vous êtes expert en environnement ici au Kasaï Central et nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est à moi de vous dire merci.
C'était notre invité David Mwanda qui s'entretenait avec André Katende Ngalamouloumé et c'est ce qui met fin à ce journal de la mi-journée qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Jean-Gandou Kabongo et la mise en onde était assurée de main de maître par Alain Goy. Ce journal est disponible sur toutes les plateformes numériques de la radio Okapi ainsi que sur son site internet www.radiookapi.net.